VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Diriek et Eric Manirakiza en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mercredi 13 juillet 2016. À la une ce soir.
Au Burundi, la députée de la communauté est-africaine Hafsa Mossi, proche du président Pierre Nkurunziza, a été assassinée à Bujumbura, la capitale.
La réunion des ministres africains des affaires étrangères de l'Union africaine s'est ouverte aujourd'hui à Kigali.
La Grande-Bretagne a un nouveau Premier ministre. Theresa May remplace David Cameron.
Le secrétaire d'État américain à Moscou pour rencontrer le président Vladimir Poutine sur la situation en Syrie.
Présidentielle américaine, une controverse entre une juge de la Cour suprême et le candidat présumé républicain Donald Trump.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nouvelle violence politique au Burundi. La députée de la communauté est-africaine, Hafsa Mossi, a été assassinée par deux individus dans le quartier de Mutanga Nord, de Bujumbura. Les détails avec Christophe Nkurunziza.
Hafsa Mossi n'est plus l'ancienne journaliste porte-parole du président Pierre Nkurunziza, ancienne ministre et députée burundaise du Parlement de la communauté est-africaine basée à Arusha, a été assassinée ce mercredi matin par des gens armés alors qu'elle sortait de sa voiture. Il se rendait en ville en provenance de la zone de Guiocha, dans le quartier de Mutanga Nord à Bujumbura. Le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, affirme qu'une des deux personnes qu'il a filée a tiré sur Hafsa Mossi. Elle sortait de sa voiture pour se rendre compte des dégâts causés par une voiture Toyota Ti qui s'est frottée contre la sienne. La députée du parti présidentiel CNDD-FDD a succombé à ses blessures quand elle a été évacuée à l'hôpital militaire. Mère de trois filles, cette ancienne journaliste de la radio-télévision nationale de la radio BBC avait été porte-parole du président Pierre Nkurunziza dans le premier gouvernement après les élections post-conflit de 2005. Elle avait également été ministre de l'information, puis ministre chargée de la communauté est-africaine avant d'être députée et membre du Parlement des États de l'Afrique orientale. Le monde journalistique et politique burundais sont choqué par la mort de cette femme toujours humble et souriante. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La réunion des ministres africains des affaires étrangères de l'Union africaine s'est ouverte aujourd'hui à Kigali. Les ministres ont évoqué des principaux sujets qui vont être débattus lors du 27e sommet de l'Union africaine dimanche et lundi prochain. Les détails avec Clermont Agibourg.
La succession de Nkosazana Dlamini-Zuma au poste de président de la Commission de l'Union africaine sera bien entendu l'un des enjeux du sommet. Mais la situation au Soudan du Sud, où de violents combats ont eu lieu le week-end dernier, sera aussi abordée. Lors de la cérémonie d'ouverture au Conseil exécutif de l'Union africaine aujourd'hui, Madame Dlamini-Zuma est montée au créneau, qualifiant la situation de « totalement inacceptable », tout en critiquant vertement les dirigeants sud-soudanais. Les gouvernements et dirigeants existent pour protéger les populations vulnérables et servir le peuple, non pour être la cause de leur souffrance, a-t-elle martelé. En référence au sommet qui doit s'ouvrir dimanche, elle a lancé « Ce sommet doit dire « trop, c'est trop ». Et Madame Dlamini-Zuma de rappeler l'engagement de l'Union africaine « réduire les fusils au silence en Afrique d'ici 2020 ».
Claire Morin-Gibourg, République centrafricaine. Le président François Hollande a annoncé que la France mettrait définitivement fin à son opération militaire Sangaris en octobre. Le pays qui connaît pourtant un regain de tension, la France qui avait lancé l'opération Sangaris dans l'urgence en décembre 2013 sur fond d'affrontements intercommunautaires, ne compte plus que 350 soldats sur place contre plus de 2000 au plus fort de la crise.
Et du nouveau concernant la brouille entre l'ONU et Kinshasa, le général Jean Billot de la MONUSCO, la mission onusienne sur place, appelle à reconnaître les progrès de l'armée congolaise. Dans un entretien avec l'AFP, le chef adjoint de la force militaire de la MONUSCO assure que la coopération entre les forces armées de la RDC et les casques bleus est de nouveau une réalité.
Retour sur l'attaque de mars à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Deux soldats ont été arrêtés pour violation des consignes militaires. On leur reproche d'avoir cohabité avec des djihadistes impliqués dans l'attentat, d'après les autorités militaires.
Conflit au Soudan du Sud, deuxième journée consécutive du cessez-le-feu. Les armes étaient visibles mais silencieuses dans la capitale, Djouba. Aucun hélicoptère de combat n'a été vu dans le ciel.
Sahara occidental, Morgane, le Maroc et l'ONU se sont entendus sur le retour d'une partie des experts civils de la mission onusienne. Rabat, irrité par les propos de Ban Ki-moon, avait expulsé en mars dernier de la plupart des membres de la mission onusienne. En avril, le Conseil de sécurité de l'ONU avait prolongé de 12 mois le mandat de la MINURSO et donné 90 jours à Rabat pour permettre le retour des dizaines d'experts civils au Sahara occidental. Rabat considère que c'est une partie intégrante du Maroc, alors que le Polisario, soutenu par l'Algérie, veut un référendum d'autodétermination.
Sachez aussi qu'en Ouganda, l'opposant Kizza Besigye, remis en liberté sous caution hier, a promis de poursuivre sa campagne de défiance envers le président Yoweri Museveni.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, au Royaume-Uni, Theresa May a été officiellement investie Premier ministre britannique mercredi, c'est aujourd'hui, est chargé par la reine Elisabeth II de former le nouveau gouvernement qui aura la lourde charge de mettre en œuvre le Brexit. L'ancienne ministre de l'Intérieur, 59 ans, succède à David Cameron, qui était venu peu auparavant remettre sa démission à la reine à Buckingham Palace. Portrait de la femme qui sera toute nouvelle locataire du 10 Downing Street avec Nathalie Barge.
Theresa May hérite d'un Royaume-Uni que le référendum a laissé entre des turbulences économiques et la pression des dirigeants européens. Cette eurosceptique, qui avait rejoint tardivement le camp du maintien dans l'Union européenne, a prévenu qu'elle ne comptait pas activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui lance le Brexit avant la fin de l'année. Après des études de géographie à Oxford et un passage à la Banque d'Angleterre, elle a été élue conseillère du district londonien de Merton en 1986 et députée conservatrice dans le Berkshire en 1997. De 2002 à 2003, elle est la première femme à être secrétaire générale du Parti conservateur. En 2005, elle prête main forte à David Cameron dans sa conquête du parti. Lorsqu'il est élu chef du gouvernement en 2010, il lui attribue le portefeuille de l'intérieur qu'elle conservera lors de sa réélection en 2015.
C'est un secrétaire d'État américain particulièrement contrarié qui a décollé aujourd'hui à l'aube en direction de l'Europe. Il se rend à Moscou. John Kerry va une nouvelle fois rencontrer le président Vladimir Poutine pour tenter de ressusciter le processus de paix en Syrie. Les précisions avec Tatiana Mosso.
La Russie et les États-Unis co-dirigent les efforts pour réunir autour d'une même table de négociation le régime de Bachar al-Assad et les groupes syriens d'opposition. Les sanglants affrontements se poursuivent malgré plusieurs cessez-le-feu et l'improbable duo apparaît de plus en plus en désaccord sur le chemin à suivre. Dans un projet signé notamment par l'Iran, l'allié de la Syrie, et par l'Arabie saoudite, pro-rebelle, une trêve doit précéder la reprise des pourparlers de Genève sur une transition politique. Cette reprise, qui était attendue pour le 1er août, est l'objet du voyage de John Kerry à Moscou. Le secrétaire d'État américain avait indiqué que, faute d'avancées majeures d'ici là, Washington pourrait avoir recours à un plan B qui reste un secret. Sur le terrain, au moins 31 civils, dont des enfants, ont péri mercredi dans des frappes aériennes sur deux villes syriennes, tenu par l'opposition, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces raids surviennent malgré une trêve en vigueur jusqu'à vendredi, mais qui n'a entraîné aucun répit dans les combats.
L'OTAN, l'Alliance pour les traités de l'Atlantique Nord et la Russie ont renoué aujourd'hui leur dialogue diplomatique pour la première fois depuis le sommet de Varsovie où l'Alliance a décidé de déployer jusqu'à 4000 soldats à l'Est en réponse à la crise en Ukraine. La crise en Ukraine, la transparence militaire, la situation sécuritaire en Afghanistan sont également à l'ordre du jour, Morgane.
Les combats se sont intensifiés aujourd'hui au Yémen, faisant 44 morts en 24 heures. L'émissaire de l'ONU entamait à Sanaa des consultations pour une reprise des pourparlers de paix.
Et en Irak, au moins 4 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un attentat suicide près de Bagdad, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Dernière en date d'une série d'attaques sanglantes visant des lieux publics autour de la capitale irakienne. L'explosion d'un véhicule piégé au niveau d'un poste de contrôle au nord de la ville a également fait 21 blessés, selon des responsables.
La France a fermé jusqu'à nouvel ordre aujourd'hui ses missions diplomatiques en Turquie. Décision intervenue peu après l'annulation des célébrations de sa fête nationale du 14 juillet dans ce pays, à la suite d'une menace réelle et concrète annoncée son ministre des Affaires étrangères.
Et toujours en France, Morgane, des gendarmes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN, s'en prennent vivement à leur chef dans une lettre anonyme, lui reprochant d'être peu courageux et de ne pas avoir engagé ses hommes lors des attentats du 13 novembre 2015. La direction générale de cette gendarmerie nationale française a condamné ce recours à l'anonymat qui n'honore pas leurs auteurs.
Le ministre de l'Intérieur belge a indiqué aujourd'hui qu'il y a 457 Belges partis combattre à un moment ou un autre en Syrie ou bien également en Irak ou ayant eu l'intention de s'y rendre, dont près d'un tiers de femmes et d'enfants. 266 sont toujours en Syrie ou en Irak, dont 90 sont portés disparus, a précisé de son côté la chaîne privée allemande VTM, qui cite les derniers chiffres de l'organe belge de coordination de l'analyse de la menace.
La Commission européenne a proposé aujourd'hui de nouvelles règles européennes communes en matière d'asile. C'est pour mettre fin aux disparités dans l'Union qui pousse les demandeurs d'asile à privilégier certaines destinations et à en éviter d'autres. L'exécutif européen veut également rendre obligatoire pour les États membres l'utilisation des concepts juridiques de pays d'origine et de pays tiers sûrs qui permettent d'accélérer le rejet des dossiers de demandeurs d'asile originaires ou ayant traversé des pays qualifiés comme tels.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec John Lindon.
Au Maroc, premier semestre difficile pour la situation économique du royaume. Ahmed Lablimi Alami, patron du Haut Commissariat du Plan, en a fait la révélation au cours d'une conférence de presse hier à Casablanca. Le PIB du Maroc ne devrait croître que de 1,5% cette année, contre 4,5% en 2015. Selon ses estimations, une reprise est attendue en 2017, avec une croissance anticipée à 3,5%. La justice algérienne a annulé hier le rachat du groupe de presse El Kabar par l'industriel Izad Rebrad, première fortune du pays, comme le souhaitait le gouvernement. M. Rebrad, patron de Cevital, premier groupe privé algérien et déjà propriétaire du quotidien francophone Liberté, avait mis sur la table plus de 40 millions d'euros pour cette acquisition. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a indiqué que la croissance économique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale serait caractérisée cette année par une décélération à 1,7% contre 2,5% en 2015.
C'est le moment de votre page sportive avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
Football d'abord, c'est la saison des transferts, n'est-ce pas ?
Le défenseur français Lucas Digne, qui évoluait la saison dernière à l'AS Rome en prêt du Paris Saint-Germain, s'est engagé pour 5 saisons avec le FC Barcelone. Le Barça a payé 16,5 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral gauche de 22 ans. Digne avait rejoint le PSG en 2013 en provenance de Lille. Et puis le défenseur central bordelais Cédric Yambéré a été prêté pour une saison avec option d'achat au club russe d'Annecy Makhachkala. À 25 ans, le joueur d'origine centrafricaine quitte le championnat français après une saison correcte avec les Girondins, 27 matchs et 3 buts. Quant au défenseur central gauche Arthur Boca, en fin de contrat à Malaga, il s'est engagé avec le FC Sion, club du championnat suisse. L'international ivoirien de 33 ans qui a joué la Coupe du Monde 2010 a signé un contrat d'une année.
On parle à présent de futsal et de l'Inde.
Le Gallois Ryan Giggs va effectuer son retour sur le terrain du futsal en Inde, en compagnie notamment de Ronaldinho, Hernan Crespo et Paul Scholes. Ryan Giggs, âgé de 42 ans, a raccroché les crampons en 2014 avant de devenir l'entraîneur adjoint des Red Devils. Il a annoncé le 1er juillet le départ de son club de toujours, dont il espérait secrètement devenir le manager. Le Gallois sera le fer de lance de l'équipe de Bombay, alors que Ronaldinho mènera Goa et Scholes Bangalore.
Tour de France, Froome, toujours en jaune.
Allié d'un jour, le Britannique Chris Froome, porteur du maillot jaune, et le Slovaque Peter Sagan, vainqueur au sprint, ont enflammé le final de la 11e étape du Tour de France, aujourd'hui à Montpellier. Après une journée de stress pour les favoris, sur la ligne Sagan, champion du monde en titre, a devancé Froome et a enlevé son deuxième succès depuis le départ du Tour.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Eric Manirakizan, votre compagnie, place au dossier du jour.
Le président burkinabé est attendu en Côte d'Ivoire à la fin de ce mois. Ce sera la première visite de Marc Christian Kaboré en tant que président. Cette visite entre en droite ligne du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Au-delà de l'amitié, il y a eu un nuage de contentieux qui plane toujours sur les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. John Lyndon a joint Rabanki Abou Bakar Zida, directeur général des éditions Sidoyens.
C'est dans un contexte d'amitié entre les deux pays, un contexte de coopération, parce que depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle le traité d'amitié et de coopération qui unit la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et dans le cadre de ce traité, annuellement, les deux parties se retrouvent pour un conseil des ministres conjoint pour essayer de discuter des grands dossiers qui unissent les deux pays. Donc c'est certainement dans une ambiance de retrouvailles, dans une ambiance de travail au profit des deux populations que cette rencontre-là va se tenir à Abidjan.
Il reste aussi qu'il y a quelques contentieux. Est-ce qu'à votre avis, ils devraient ou seront évoqués?
Bon, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou dans les relations entre les États. Tout dépend de comment est-ce que le sujet est posé et dans quel contexte, dans quelle ambiance. Je pense que les deux parties sont là pour le bien-être des populations, que ce soit le peuple ivoirien ou le peuple burkinabé. Voilà, ils ont les dirigeants qui ont, à mon avis, le souci de travailler au rapprochement de ces deux peuples-là. Parce que ces deux pays qui sont plus ou moins liés par l'histoire et la géographie. Parce qu'il y a un moment donné dans l'histoire de l'Afrique où on parlait de Haute Côte d'Ivoire et de Basse Côte d'Ivoire, où pour signifier un peu que le Burkina Faso, autrefois appelé Haute Volta, voilà, faisait partie intégrante de la Côte d'Ivoire à un moment donné. Donc au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, il y a eu des populations qui ont immigré de part et d'autre et qui se sont installées depuis des générations, si bien qu'actuellement, il est vraiment difficile de tracer une barrière, ne serait-ce que théorique, voilà, pour séparer ces deux pays. Ce n'est pas impensable, ce n'est pas imaginable à l'état actuel. Donc le tout, c'est de travailler à trouver les voies et moyens pour faciliter la bonne coopération et les bonnes relations qui existent entre les deux pays au profit véritablement des populations.
Le président Marc-Christian Kaboré a déclaré dans un journal panafricain que tôt ou tard, M. Blaise Compaoré devra rendre des comptes. Est-ce que ça n'entache pas cette visite?
Oui, je crois que le dossier Compaoré n'est pas un sujet tabou, comme je l'ai dit tantôt. Parce que quoi qu'on dise, hein, nous sommes dans un contexte démocratique. Et qui parle de démocratie, parle de justice. Voilà, que ce soit X ou Y, à un moment donné, chacun de nous devra plus ou moins répondre de ce qu'il pose comme acte. Voilà, ce n'est pas propre à l'Afrique ou au Burkina Faso ou à la Côte d'Ivoire.
Rabanki Abou Bakar Zida, directeur général des éditions Sidoya au Burkina Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Mali, le gouvernement a présenté ses condoléances et déploré la situation à Gao, où une marche des jeunes a dégénéré hier, faisant 4 morts. Les jeunes sont sortis aujourd'hui et une autre personne a été blessée par balle. Une mission de haut niveau a été envoyée par le gouvernement pour tenter de calmer la situation. Idriss Fall a joint Moussa Bourayma, un leader des jeunes de Gao.
Ce sont les mêmes condoléances que nous avons posées depuis 2013. Depuis la libération du Mali, nous avons dit que les communautés qui ont œuvré, qui ont fait tout pour que le Mali ne soit pas divisé, que ceci soit pris en compte dans la mise en œuvre des accords. Il s'agit du cantonnement, il s'agit de la réinsertion, il s'agit effectivement des différentes commissions de mise en œuvre de l'accord. Les communautés doivent être représentatives dans ces commissions-là. Et aujourd'hui, nous voyons que toutes ces commissions qui sont constituées, uniquement par la plateforme, par l'ACMA et le gouvernement. Et les communautés qui ont été victimes de cette occupation-là, et les communautés qui ont été volées, violées, où est leur place dans cette mise en œuvre de l'accord-là? C'est ce que nous disons que nous ne comprenons pas. Il faut nécessairement que ces communautés qui ont souffert, ces communautés qui ont tout perdu, puissent effectivement être impliquées dans la mise en œuvre de ces accords-là, dans les commissions, dans le cantonnement, dans la réinsertion. Il faut nécessairement que les jeunes puissent être dans la fonction publique de l'État, dans tous ces comportements. Nous sommes des Maliens au même titre que tous les autres Maliens. Le taux de chômage est tellement élevé ici que ça entraîne la criminalité. Il faut que cela s'arrête. Il faut effectivement que ces jeunes-là puissent travailler, qu'on leur donne du travail. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue depuis toujours.
Est-ce que vous avez entamé des discussions avec le gouvernement qui a envoyé une délégation à Gao?
Oui, la délégation est déjà à Gao, mais nous ne sommes pas encore rentrés dans la mesure où tout de suite il y avait eu un tir sur un des passants qui était sur une moto. Nous avons dit qu'il faut qu'on sache d'abord quel est son état de santé avant de pouvoir rencontrer les autorités qui sont venues.
Est-ce que Bamako a les moyens de régler toutes vos doléances?
Bien sûr, Bamako a les moyens parce que c'est Bamako qui est le patron même de la mise en œuvre de l'accord. La communauté internationale n'est que le garant. Nous attirons l'attention de la communauté internationale par rapport au traitement que l'État malien et les groupes armés sont en train de faire aux communautés qui sont sur place. Parce que ces communautés-là sont en train d'être exclues petit à petit de cet accord-là. Donc, effectivement, les autorités maliennes ont tous les moyens aujourd'hui de satisfaire ces doléances-là. Oui, on a été très, très, très longtemps négligé et il faut que cela s'arrête. On a été très longtemps mis à l'écart, il faut que cela s'arrête. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue depuis hier.
Moussa Bourhema, leader des jeunes de Gao dans le nord du Mali.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Destination en Afrique australe, au Zimbabwe, la société civile s'organise dans un contexte de crise sociale et économique particulièrement tendu. Et ni les menaces, ni la répression ne semblent vouloir avoir raison de la colère sociale. Pour des explications, Anastasie Toudiech, adjoint à Durban, en Afrique du Sud, l'économiste Léon Katamwe.
La crise a commencé depuis longtemps avec le pouvoir dictatorial. C'est toujours comme ça. Lorsque les gens se fatiguent de la dictature, il y a toujours des crises.
Qu'est-ce qui a bien pu être le détonateur cette fois-ci?
Il y a eu, je pense, dans une ou deux semaines, il y a eu une loi que le gouvernement a prononcée ou promulguée pour que les petits commerçants ne puissent pas acheter les vivres de l'Afrique du Sud pour amener au Zimbabwe. Et madame, si vous vous souvenez très bien, depuis les années 90, il y a un monde des Zimbabwéens qui vit en Afrique du Sud. Ils s'approvisionnent des biens, des vivres faits pour amener au Zimbabwe. Alors, le peuple qui ne touche rien, l'économie est par terre, le peuple qui n'est pas content du pouvoir, et vous venez encore emboîter ses pas dans des petits commerces. Alors, le peuple n'a pas voulu ça et les gens ont manifesté. Et vous savez qu'en Afrique, quand il y a des manifestations comme ça, il y a toujours des répressions de la part de la police. Et jusqu'alors, je ne sais pas les bilans, mais peut-être on disait qu'il y avait des morts. Hein.
Et contrairement aux années précédentes, il semblerait que, quelle que soit la force de la répression, les Zimbabwéens s'organisent pour contester le mouvement This Flag, ce drapeau, en est une bonne illustration.
Vous voyez, il y a beaucoup de mouvements qui naissent par-ci, par-là, et surtout que le peuple est déjà fatigué. Le peuple va toujours se regrouper, le pouvoir va toujours réprimer, mais en fin de compte, avec la décision du peuple, le gouvernement, d'un moment à l'autre, il va toujours tomber. Quand l'économie est en train de dégringoler petit à petit, les gens peuvent supporter. Mais quand vous êtes déjà au bas de l'échelle, les gens ne peuvent pas supporter. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré les répressions, les gens sortent toujours pour marcher. Les gens disent toujours non au gouvernement.
Le président Mugabe avance en âge. On ne lui connaît pas de successeur désigné. À quoi va ressembler le Zimbabwe dans les années à venir?
Vraiment, avec ce chaos ici, nous avons eu beaucoup d'expériences comme ça en Afrique. Hein. S'il y a un dictateur qui s'accroche au pouvoir, il ne veut pas quitter. Lorsque la population ou le peuple est fatigué, je pense qu'un jour le peuple dira non. Et à ce moment-là, ça sera maintenant la fin de cette longue dictature. C'est ce que le peuple attend de lui.
Léon Katamboué, joint à Durban, en Afrique du Sud.
Dans Washington Forum cette semaine, vague de tensions aux États-Unis avec la mort de deux hommes noirs abattus par des policiers. Dallas, le 7 juillet, un tireur embusqué tue 5 policiers en marge d'une manifestation contre les violences policières, justement. Barack Obama se rend sur place. Alors la question raciale est-elle de nouveau relancée aux États-Unis? Quelle unité pour le pays? Y aura-t-il un autre débat sur le port d'armes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Présidentielle américaine de novembre. Alors que la campagne s'accélère, une controverse éclate entre une juge de la Cour suprême, c'est Ruth Bader Ginsburg et le candidat républicain présumé Donald Trump. La chronique de Timothée Donangmaï.
Alors tout d'abord, un mot sur la juge Ginsburg. Cette New-Yorkaise de 83 ans siège à la Cour suprême depuis sa nomination en 1993 par le président Bill Clinton. Elle est connue pour son franc-parler, elle est aussi perçue comme faisant partie de l'aile libérale de la plus haute instance judiciaire américaine dont elle est aujourd'hui la doyenne. Sa querelle avec Donald Trump a éclaté à la suite d'un article du New York Times qui la cite disant au sujet d'une éventuelle élection de Trump à la Maison-Blanche « Je ne peux pas imaginer ce que serait le pays », avant d'ajouter avec un brin d'humour « Il serait peut-être temps d'émigrer en Nouvelle-Zélande ». Les juges de la Cour suprême américaine étant connus pour leur réserve vis-à-vis des débats politiques, la sortie de Mme Ginsburg a provoqué un tollé dans le pays. Un éditorial du New York Times l'exhorte à observer cette tradition de silence des juges de la Cour au sujet des campagnes électorales. Certains analystes font remarquer que le code de conduite de la Cour interdit à ses juges de soutenir publiquement un candidat à un poste public ou de s'opposer à sa candidature. D'autres voix se sont élevées pour souligner que la juge Ginsburg est, après tout, une citoyenne américaine comme les autres et que le fait d'exprimer son opinion ne l'empêchera pas de dire le droit.
Et répondant aux critiques de la juge Ginsburg, le candidat républicain présumé Donald Trump a appelé à sa démission team.
La juge Ginsburg a embarrassé tout le monde en faisant de stupides déclarations politiques à mon sujet, a écrit M. Trump sur son compte Twitter, ajoutant, toujours au sujet de Mme Ginsburg, « Son esprit est fermé, démissionne ». Dans une interview au New York Times, Donald Trump a déclaré que la juge Ginsburg doit par ailleurs présenter des excuses à ses collègues. Mme Ginsburg n'est apparemment pas prête d'arrêter la controverse. Dans un entretien publié par CNN, elle dit du candidat républicain présumé « C'est un truqueur ». Il n'a rien de consistant, il raconte tout ce qui lui passe par la tête et se demandant comment Donald Trump s'est arrangé jusqu'ici à ne pas publier sa feuille d'impôt, la juge Ginsburg a dit qu'à son avis, la presse a beaucoup ménagé l'homme d'affaires devenu politicien. Une chose est sûre, c'est une autre distraction pour Donald Trump au moment où il veut concentrer ses attaques sur son adversaire présumé, Mme Hillary Clinton.
Chronique de la présidentielle américaine, signée Timothée Donangmaï.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Georges et Léonard Sagnot à la console Eden. Présentation Morgane Guiriec et Eric Manilakitz.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Nous disons un grand merci à nos 1 250 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako.
Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.